Je reçois notre invité, nous fait l'amabilité d'être en studio et je l'en remercie. Alain Boituza, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat honoraire au barreau de Paris, enseignant au Paris 1 Sorbonne. Et vous publiez La Deuxième République en Dordogne, 1848-1852, édité par La Chape, qui est la Société historique et archéologique du Périgord. Première question peut-être basique, mais pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé à cette Deuxième République, et qui plus est en Dordogne ?
Alors, la réponse est simple. J'ai décidé de consacrer ma retraite à l'étude de l'histoire, et tout spécialement à l'étude de l'histoire du XIXe siècle. Parce que je considère que ce qui s'est passé à cette époque constitue en quelque sorte la matrice de tout ce qu'on a de mieux et de tout ce qu'on a de mauvais sur le plan politique actuel. Donc j'ai commencé mon étude par le début du siècle, et j'ai publié il y a 6 ans un premier volume, qui a été consacré à Élie Decazes, qui est d'ailleurs presque un régional de l'étape, puisque Élie Decazes est originaire de Libourne, donc il n'est pas très loin, et qui a joué un rôle très considérable au moment de la restauration, entre 1815 et 1820. Ensuite, j'ai décidé de me consacrer au milieu du siècle, et évidemment, l'événement important du milieu du siècle, c'est l'avènement de la Deuxième République et son avènement en 1848 et sa disparition en 1852. Donc c'est une république en quelque sorte éclair, une république qui était très courte, et la question qui est intéressante à se poser est de savoir pourquoi elle est intervenue, pourquoi elle est advenue et pourquoi elle est disparue si rapidement. Donc ça, c'est l'objet de mon étude actuelle. D'une part sur le plan national, et d'autre part sur le plan de la Dordogne, pour les raisons suivantes, c'est que je suis depuis 45 ans pratiquement un amoureux inconditionnel de la Dordogne, et tout particulièrement du coin que j'ai adopté ou qui m'a adopté depuis tout ce temps, qui est situé à Lille, à quelques encablures de Ribérac. Donc, à ce titre, et aussi au titre de membre de la Chape, je me suis attaché à rechercher et comprendre ce qui était devenu dans cette période 1848-1852 en Dordogne, quels sont les personnages historiques qui ont émergé et pour quelles raisons, et quelle a été l'interaction entre les événements qui sont survenus à Paris et ceux qui sont survenus en Dordogne, d'où ce livre consacré à la Deuxième République en Dordogne.
Au moment où commence cette Deuxième République, donc en 1848, dans quel état se trouve le département de la Dordogne ? Est-ce qu'il reste encore secoué par la Révolution ? Parce qu'on n'en est pas très loin. Est-ce qu'il y a vraiment autant d'événements et de personnalités qui font que ce livre est sorti, que vous l'avez publié ? Parce qu'on peut imaginer que forcément, à ce moment-là, Seconde République, tout se passe à Paris.
Alors, vous avez raison, tout s'est déclenché à Paris. La révolution de 1848, donc de février 1848, était une révolution exclusivement parisienne au départ. Je rappelle que le facteur déclenchant de cette révolution consiste dans la volonté manifestée par une certaine partie de la classe politique de souhaiter un élargissement du suffrage censitaire. Et le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement Guizot, qui était ultra-conservateur, s'est arc-bouté sur le système censitaire tel qu'il était à l'origine, refusant toute modification, tout élargissement. D'où des manifestations qui ont spontanément tourné à Paris, donc entre le 22 et le 24 février 1848, à une insurrection, et puis finalement à une révolution, et chassant Louis-Philippe du trône et constituant un gouvernement provisoire. Ça, ce sont des événements qui sont strictement parisiens. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ces événements ont pu se diffuser en Dordogne, un département qui à l'époque, toujours aujourd'hui, quand même situé à peu près à 500 km de Paris, sachant qu'à l'époque, les moyens de communication
n'étaient pas les mêmes.
Étaient complètement. N'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Pour faire le voyage de Paris à Périgueux ou vice-versa, il fallait au moins une semaine par les diligences. C'était des voyages extrêmement périlleux, à telle enseigne qu'on recommandait aux voyageurs de faire le testament avant de prendre la diligence. Il y avait bien un système de communication par télégraphe, mais ça datait de la Révolution, c'était des signaux qui étaient faits de colline en colline et qui ne fonctionnaient pas l'hiver, évidemment, à cause du brouillard. Et donc, la Dordogne était un territoire qui était extrêmement enclavé par rapport aux grands axes de communication. C'était un territoire qui était aussi envahi en grande partie par la forêt, et c'était un territoire qui était rural, puisqu'à l'époque, 90% de la population habitait les campagnes ou habitait les bourgs de moins de 1000 habitants. Et c'était quand même le système de l'autarcie, à telle enseigne que très peu de gens en Dordogne parlaient français. C'était parfois pratiquement par région ou par sous-région. Donc, voir ce télescopage de cette révolution parisienne qui arrive grondante en Dordogne, voir comment les élites locales et la population réagit, c'est ça qui m'a passionné, qui m'a intéressé.
Alors on va pas raconter bien sûr le livre, on va conseiller à celles et ceux qui nous écoutent de se le procurer, on dira comment à la fin de cet entretien, mais quelques mots justement sur ces élites qui vont sortir du lot et vont faire que le département de la Dordogne va quand même avoir son importance au niveau national.
Alors, premier point, les élites qui étaient en place à cette époque étaient des élites... vous aviez principalement des gens d'Europe, des avocats, des médecins, profession libérale, grands négociants, par exemple, ça c'était la composition du conseil municipal de Périgueux. Voilà. Bon. Sachez qu'à l'époque... les élections d'un conseil municipal se faisaient aussi pratiquement en fonction d'un suffrage censitaire, mais que le pouvoir en place avait le pouvoir de nommer le maire. Le maire n'était pas élu, le maire était nommé. Il était nommé par le préfet pour les villes de moins de 3000 habitants et par le roi lui-même pour les villes de plus de 3000 habitants. Donc le pouvoir central maîtrisait complètement cette politique. Et précisément, l'arrivée de la Révolution a surtout eu comme conséquence d'instituer le suffrage universel. Et c'est tout à fait, je dirais, d'actualité, ça, parce que c'est la première expérience, grandeur nature, du suffrage universel masculin. Hein,
oui,
masculin.
Les femmes ne votaient pas.
Les femmes ne votaient pas, elles ont essayé de le faire, mais considéraient que ce n'était pas leur place.
Il fallait avoir 21 ans.
Il fallait avoir 21 ans. Alors, si vous voulez, pour résumer, dans le système censitaire, en Dordogne, je parle,
oui.
Vous aviez 500 000 habitants, à peu près, hein, 500 000 habitants. Dans le système censitaire, vous aviez exactement 2250 électeurs. Pour être électeur censitaire, il fallait payer un impôt annuel d'au moins 200 francs et être âgé, effectivement, d'au moins 21 ans. Pour être éligible, il fallait payer un cens d'au moins 500 francs et être âgé de 30 ans. Et donc, ce suffrage universel qui va... Vous vous rendez compte qu'en l'espace de quelques semaines, on va passer de 2200 électeurs, je parle en Dordogne toujours, de 2200 électeurs à 140 000 électeurs. Et par conséquent, c'était un système de scrutin de liste départementale. Pour la Dordogne, il fallait élire 13 députés, 13 représentants à l'Assemblée constituante qui allait rédiger la Constitution de la Deuxième République. Ces élections ont lieu le 24 avril 1848 et on constate que les 13 candidats élus font tous partie de la bourgeoisie. C'est un petit peu l'avènement de la bourgeoisie dans la politique, avec des mandats électifs Et avec. Alors, ce qui était intéressant aussi à savoir, c'est que c'était un scrutin de liste qui s'adressait à des gens dont l'extrême majorité, la plus grande majorité, ne savait pas écrire. Et par conséquent, il fallait qu'elle demande à Pierre, Paul ou Jean de remplir les bulletins. Et généralement, surtout dans la campagne, on demandait à monsieur le curé, à monsieur le maire, ou on demandait aussi à ce qu'on appelait encore le maître, c'est-à-dire le grand propriétaire terrien qui était un peu maître de l'emploi dans la commune. Ce qui permet de comprendre que le résultat de l'élection, ça a été d'élire une élite finalement très conservatrice, très bourgeoise. Donc vous voyez le truc, l'utilisation du suffrage universel revient finalement à faire élire la bourgeoisie, ce qui ne va pas changer grand-chose à la situation antérieure. Et encore pire, puisque dans quelques années, on va faire élire par ce système, et en Dordogne, ça atteint les proportions de l'ordre de 95-98%, on va faire élire Louis-Napoléon Bonaparte d'abord comme président de la République, et ensuite on va le publiciter comme empereur. Donc vous voyez le raccourci en 4 ans du suffrage universel, on part d'un système, je dirais, de recherche absolue de démocratie, et on arrive à l'avènement de l'Empire, qui était quand même une dictature. Voilà.
Est-ce que la population de la Dordogne, à ce moment-là, donc entre 1848 et 1852, est consciente de cet avènement de la Seconde République? Qu'est-ce qu'elle en attend, cette population?
Alors,
je ne parle pas de l'élite ou des bourgeois qui, population, eux, sont informés.
On va parler de la population elle-même. Cette population a été traumatisée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bien évidemment, lorsque surgit la Révolution à Paris, d'abord, elle surgit dans une période de grandes difficultés économiques et financières. On est en pleine période de marasme économique, avec beaucoup de fermetures d'usines, avec beaucoup de chômage. Et l'avènement de la Révolution à Paris risque d'entraîner, je dirais quasi instantanément, la banqueroute de l'État. Alors, vous savez bien, pour s'en sortir, c'est très simple, on invente des impôts nouveaux. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas...
On n'a rien inventé.
On n'a rien inventé. Et en l'espèce, le ministre des Finances, qui s'appelait Garnier-Pagès, a inventé ce qu'on a appelé l'impôt des 45 centimes. L'impôt des 45 centimes consistait, grosso modo, à augmenter de 45% les impôts directs qui étaient alors en vigueur et qui étaient toutes fondées sur la propriété foncière. Alors, cette propriété foncière était partagée, certes, entre de grands propriétaires fonciers, mais également une infinité de petits propriétaires ruraux qui pratiquaient la subsistance. Et donc, qui était imposé ces 45 centimes. Et par conséquent, voilà comment la vision qu'ont eue ces gens-là de la Révolution. Imposer de nouvelles impositions. À telle enseigne que ça a créé des révoltes et que finalement, le score qu'a réussi Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, élu président de la République, c'est simplement. Alors, il faut dire que, c'est clair, suffrage universel rime avec démagogie. Je donne l'exemple là. Dans la campagne de Napoléon Bonaparte, on n'a pas arrêté de dire, écoutez, s'il est élu, il va supprimer l'impôt des 45 centimes. Donc, il a eu un succès extraordinaire. Bien sûr qu'il n'a pas supprimé. Après tribut, ça, c'est également un grand classique.
Donc, la population est quand même dans une misère importante à ce moment-là. Parce qu'il y a une crise économique qui sera la fin de cette Deuxième République.
Vous savez, par exemple, en Dordogne, département agricole à 90%, mais une agriculture qui était archaïque, qui était fondée sur des habitudes, c'était principalement le métayage, et le métayage, le propriétaire, il voulait que ça le rendement, et le métayer n'avait aucun intérêt à améliorer la terre, puisque de toute façon, il n'en tirait pas les bénéfices et les fruits. Donc, vous aviez une agriculture qui était vraiment archaïque, vous aviez des pans entiers du territoire, je prends la double, puisque vous connaissez bien, nous sommes presque au cœur des Lubbies, qui était un territoire qui était représenté à peu près 50 000 hectares quand même, hein, entre l'île et la Drôme, et ce territoire était misérable. Il y avait une magnifique forêt sous l'Ancien Régime, qui tout avait été décimé depuis. C'était un pays de marécage, c'était un pays de paludisme, et c'était un pays où les gens étaient très malheureux. Et il a fallu 30 ans pour pratiquement assécher ces marais. Bon, c'est un exemple, mais c'est un pays très pauvre, effectivement. Et très pauvre, par exemple, quand il s'agissait de recruter les gens pour l'armée, une grande partie des jeunes de l'époque n'étaient pas aptes, parce que physiquement n'étaient pas aptes. Au point de vue taille, au point de vue carence alimentaire, enfin, voilà. Non, c'est un pays qui était vraiment pauvre, c'est un pays qui était pauvre. Alors, il a existé effectivement des précurseurs en matière agricole. Pour situer, parlant d'ici, on est à Tocane, le marquis de Fayolle, qui a apporté beaucoup de choses à l'agriculture. Et puis, un personnage qui est très controversé aujourd'hui, c'est Bugeaud. Bugeaud qui a accès d'œil, a créé une ferme modèle. Vous savez que c'est Bugeaud qui a créé les premiers commissaires agricoles à la Noaille, en 1824, je crois. Donc, vous aviez toute une ambiance de misérable, vraiment de misère. Et, par exemple, l'industrie était extrêmement pauvre. La grande industrie, c'était le minerai et les... Et au fourneau, enfin les forges, etc. Mais c'est pareil. Le personnel, souvent, c'est le personnel rural qui était employé pendant la morte saison, pendant l'hiver. Vous voyez. Donc c'était quand même une culture de subsistance,
oui, c'est ça.
Une industrie extrêmement disséminée qui d'ailleurs n'a pas la sidérurgie n'a pas résisté aux années 1850 à l'amélioration de des systèmes de fourneaux, etc. Elle a disparu à ce moment-là en Dordogne.
Cette deuxième république ne va rien changer. Elle va durer 4 ans, hein, on le dit depuis le début. Mais elle ne va rien changer finalement au département de la Dordogne. Elle ne va pas apporter quoi que ce soit à sa population ou à son développement.
Non, je pense que d'abord c'était trop court pour...
Bien sûr.
Non, on ne peut pas dire que ça soit manifesté par des réformes, des modifications importantes, non. On arrive tout de suite dans l'Empire avec tout un autre système politique.
C'est une histoire d'ego finalement qui va, au-delà de la crise économique, faire basculer la France dans la Troisième République après.
Ah, ça c'est une grande question. Vous savez, l'histoire, enfin, moi c'est ce qui me passionne dans l'histoire. Il y a deux thèses dans l'histoire. La première thèse est de dire c'est des grands mouvements, et puis ils sont comme ça, ils sont irrémédiables, etc. La deuxième idée, c'est de dire maintenant l'histoire peut basculer de rien. Un petit événement imprévu, ça bascule. Je prends l'exemple, quand même, à mon avis, ce qui a vraiment marqué, c'est cette élection de Louis-Napoléon Bonaparte à l'époque, qui était quand même le premier président de la République. Alors, j'ai fait une observation ici qui est, à mon sens, intéressante, puisque vous parlez de Troisième République. Quand on a rédigé la Constitution de 1948, il y a eu des grandes discussions sur la question de savoir si le président de la République, qui était le premier président de la République, devait être élu soit par l'Assemblée nationale, dont il était le mandataire, soit par le peuple. Donc il y a des grandes discussions, et finalement on a décidé qu'il serait élu par le peuple. Étant élu par le peuple, il avait une légitimité qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Et sachez que ça a tellement été traumatisant, parce que Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République, il prête serment de servir et de protéger la Constitution, et il la viole délibérément en décembre 51 par son coup d'État. Eh bien, sachez que ça a traumatisé tout le monde politique pendant plus d'un siècle. Puisque la Troisième République, qui est dans les 1875, disons, ça mérite de naissance, eh bien, le président de la République devient une potache, devient quelqu'un qui n'a pas de pouvoir propre, du moins qui n'a pas de pouvoir politique décisionnel. Et ça, Troisième République, Quatrième République, Et c'est tout l'enjeu de la Ve République.
Oui.
Et au départ, la Ve République, le président était élu par les assemblées. Il a fallu attendre 62 pour qu'il soit élu. Et toute cette période, en gros, entre 52 et 1852 et 1962, est liée à la neutralisation du président de la République pour ne pas lui donner des pouvoirs qui ont été traumatisants par l'utilisation par Napoléon Bonaparte de son pouvoir pour se transformer en empire.
Merci beaucoup pour toutes ces petites informations. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, dans cet ouvrage, La Deuxième République en Dordogne. Vous publiez quand même des gravures,
oui,
parce qu'il y a de nombreux portraits de ceux qui ont marqué cette Deuxième République en Dordogne.
L'iconothèque de la Chape, c'est un véritable trésor. Tout vient de la Chape. Et effectivement, on a retrouvé les gravures, les portraits de pratiquement tous les acteurs locaux de cette époque. Dans le bouquin, vous aviez prêté, enfin, pour que ce soit plus concret, quoi, pour que l'histoire soit plus concrète, soit plus descriptive, vous avez effectivement le maximum de gravures.
Voilà. Et notamment une fête importante qui marque peut-être.
C'est la promulgation, je crois que c'est le 12 novembre
1848, oui.
La promulgation
de la Constitution
à la Concorde, à Paris, de la Constitution de 48, qui, encore une fois, n'a été appliquée que 4 ans, quoi, pratiquement.
Et ensuite, Louis-Napoléon Bonaparte ne viendra pas d'Ordogne.
Il n'est pas venu en Dordogne. Alors, petite anecdote intéressante là-dessus, c'est intéressant. Parce que Louis-Napoléon Bonaparte a compris avant tout le monde comment il fallait mener une campagne électorale. Et comment il fallait s'auto-glorifier. C'est très connu aujourd'hui, hein, on le voit, bon, s'auto-glorifier et faire sa propre promotion. Et lorsqu'il a été président de la République, c'est lui qui a inventé les grands voyages en province, des tournées en province avec le train, qui était une invention
récente,
tout à fait récente. Donc il a eu l'intelligence d'utiliser la technique, au point de la technique du progrès, pour son propre intérêt. Et donc il n'est pas venu, à mes connaissances, directement en Dordogne, mais il a fait tout un tour, notamment en septembre 1851, il a commencé par le centre, le sud, il est remonté par le sud-ouest, et c'est à Bordeaux, en octobre 1851, qu'il a fait un discours qui, pour la première fois, pour la première fois, il déclarait qu'il acceptait, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que par ses voyages, il faisait monter un désir d'empire. Je dirais que on trouvait que les choses étaient finalement républiques, c'était un brouillon, personne n'en voulait véritablement, du moins les élites. Mais le peuple, on voulait le faire rêver un petit peu, on voulait faire la réminiscence du premier empire. Et pour véhiculer ce désir d'empire, Napoléon III, Louis Napoléon à l'époque, avait organisé ses voyages en province. Et c'est à Bordeaux qu'il déclare, en octobre 1851, qu'il déclare qu'il est d'accord pour l'établissement de l'Empire. Comme si c'était quelque chose qui correspondait à accorder au peuple. C'est à Bordeaux qu'il l'a fait. Et à l'époque, d'ailleurs, il était tout à fait assisté par Pierre Magne, Pierre Gourdin bien sûr, qui était très proche de lui et qui l'a suivi après dans toute son aventure impériale.
Merci beaucoup Alain Boitusa. La Deuxième République en Dordogne, 1848-1852, édité à la Société historique et archéologique du Périgord. Où peut-on se procurer cet ouvrage? Est-ce qu'on le trouve en librairie ou directement à la Chape?
À la Chape.
À Périgueux,
dans les librairies à Périgueux, notamment chez Marbeau, des choses comme ça.
Sinon, on peut le commander par exemple à Ribérac.
On le commande à Ribérac. C'est-à-dire que si s'intéresse du monde, il y aura toujours un moyen de s'en procurer dans les librairies à Ribérac sans aucune difficulté.
Très bien. Merci beaucoup pour être venu jusqu'à nous.
Merci beaucoup de votre réception, de votre gentillesse.
Je vous en prie. À bientôt.
À bientôt, j'espère.